You're with SBS Radio.
Les grands titres de ce jeudi, l'état d'urgence dans le territoire du Nord avec le passage du cyclone Trevor. La première ministre britannique demande aux députés de soutenir un accord du Brexit. En France, quatre associations accusées de prêcher le djihad vont être dissoutes. La première ministre britannique Theresa May a déclaré qu'elle regrettait de devoir différer le Brexit. Cela intervient après que le président du Conseil européen Donald Tusk ait accepté de retarder le Brexit à condition que le Parlement britannique approuve un accord. Theresa May a écrit au Conseil européen pour demander un délai jusqu'au 30 juin et devra être approuvé par tous les autres membres de l'Union européenne. Theresa May.
It is now time for MPs to decide.
Pour les parlementaires, il est maintenant temps de faire leur choix. Donc aujourd'hui, j'ai écrit à Donald Tusk, le président du Conseil européen, pour lui demander un court report de l'article 50 jusqu'au 30 juin afin de donner du temps aux parlementaires de prendre une décision définitive. Veulent-ils sortir de l'UE avec un accord conforme aux résultats du référendum, un accord qui nous permet de reprendre le contrôle de notre monnaie, de nos frontières et de nos lois, tout en protégeant les emplois et notre sécurité nationale? Veulent-ils une sortie sans accord ou ne veulent-ils pas de sortie du tout, infligeant probablement ainsi des dégâts irréparables à la confiance de la population, non seulement envers cette génération d'élus, mais envers l'ensemble de notre système démocratique? Il est grand temps que nous prenions une décision. Jusqu'à présent, le Parlement a tout fait pour éviter de faire un choix. J'espère sincèrement que les parlementaires trouveront un moyen d'approuver l'accord que j'ai négocié avec l'UE, un accord qui correspond aux résultats du référendum et qui est le meilleur accord possible.
Et maintenant, les réactions depuis Bruxelles avec ce reportage de Pierre Benazé pour Radio France Internationale.
Avant même de recevoir la lettre de Theresa May, l'Union européenne avait commencé à préparer sa réponse, puisque les services juridiques de la Commission ont émis ce mercredi un avis sur la question, un avis défavorable au scénario proposé par Theresa May. Plusieurs pays de l'UE jugeaient jusqu'ici possible un report jusqu'au 30 juin, une date butoir située avant la prestation de serment des nouveaux députés européens. Mais voilà, les services juridiques estiment finalement que ce serait ouvrir la porte à trop d'incertitudes politiques. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, préconise donc une prolongation beaucoup plus courte jusqu'au 23 mai, date du premier jour de vote pour les élections européennes, afin d'éviter les difficultés institutionnelles. L'autre possibilité évoquée par les services juridiques serait un report beaucoup plus long, mais qui obligerait les Britanniques à participer aux élections européennes, ce que refuse Theresa May. Mais quoi qu'il arrive, il n'est pas certain qu'un report sera accordé lors du sommet européen, car il faut l'unanimité des 27, et certains pays, dont la France, le refuseraient si Theresa May ne fournit pas de garantie pour l'adoption de l'accord de sortie par la Chambre des communes.
Pierre Benazé pour RFI. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a appelé à une lutte internationale contre l'idéologie d'extrême droite raciste après l'attaque meurtrière dans deux mosquées à Christchurch la semaine dernière. Dans l'une de ses premières interviews, elle a déclaré à la BBC qu'elle rejetait l'idée que l'immigration alimentait le racisme.
What New Zealand experienced here was violence brought against us by someone who grew up and learned their ideology somewhere else. So actually, if we want to make sure that globally we are a safe and tolerant and inclusive world, we cannot think about this in terms of boundaries. And that's the kind of leadership I think we need.
La première ministre néo-zélandaise, le bureau du président turc a affirmé qu'une adresse incendiaire avait été prise hors de son contexte après que le discours avait déclenché un conflit diplomatique majeur avec l'Australie. Le président turc a joué un enregistrement du massacre de Christchurch lors d'un rassemblement politique avant de dire que les Australiens ayant des opinions anti-musulmanes seraient renvoyés chez eux dans des cercueils comme leur grand-père. Il faisait référence à la bataille de la Première Guerre mondiale mondiale à Gallipoli, au cours de laquelle des milliers de soldats australiens et néo-zélandais sont morts en combattant les Turcs. Le Premier ministre australien a condamné les commentaires du président turc et a appelé l'ambassadeur de Turquie en Australie pour lui demander que le président turc retire ce qu'il avait dit. Et puis je rappelle que voyager en Turquie reste à un niveau, je cite, de prudence extrême pour les Australiens en raison de la forte menace terroriste dans ce pays. Les habitants de l'est du territoire du Nord continuent de quitter leur demeure alors que le cyclone tropical Trevor continue son trajectoire. Le cyclone a commencé à atteindre la région tard mardi soir en tant que tempête de catégorie 3, déversant 300 mm de pluie et enregistrant des rafales de vent de plus de 130 km/h. Le chef du Northern Territory, Michael Gunner, a déclaré que les évacuations étaient les plus importantes que le territoire ait connues.
All cyclones in this area are unpredictable, making the situation complex and dynamic. It is critical you take it seriously. It is critical you do everything you can to listen to every update. The severity of the storm, the significant threat it poses, as well as the complications that come with the remoteness of the area, led to the decision to commence evacuations in the area yesterday.
Le chef du Northern Territory, Michael Gunner. En Australie toujours, Bridgewater Poultry est en train de rappeler un certain nombre de produits à base d'œufs, craignant une possible contamination par la salmonellose. Les produits ont été mis en vente dans les magasins Woolworths et indépendants de Nouvelle-Galles du Sud, du Victoria, de la Tasmanie et dans les supermarchés de Coles dans le Victoria et en Australie du Sud. Les consommateurs sont priés de ne pas les consommer et à retourner les produits au lieu d'achat pour un remboursement complet. Les Australiens célèbrent le 20e anniversaire du jour de l'harmonie, aujourd'hui ce 21 mars. Cette journée a pour but de promouvoir l'inclusion et l'appartenance de tous les Australiens, quel que soit leur contexte culturel, religieux ou linguistique. La journée de l'harmonie de cette année s'inscrit dans le sillage des attaques des mosquées néo-zélandaises qui ont coûté la vie à 50 personnes. Écoutez le directeur exécutif de la Australian Multicultural Foundation, As Delal.
The solidarity that has been displayed because of this horrific tragedy and this horrific event, it's been overwhelming. Harmony Day again is a day that actually unites the strong and it demonstrates, you know, the importance of strength.
L'ex-président des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a été condamné à la prison à perpétuité, les juges du Tribunal pénal international de l'ONU à La Haye rejetant son appel. Reportage Oriane Verdier, Radio France Internationale.
Pour les Croates catholiques et les Bosniaques musulmans, il est responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes durant la guerre qui a duré de 1992 à 1995. Pour de nombreux Serbes orthodoxes, il reste un héros. Radovan Karadzic avait été condamné en première instance à 40 ans de prison par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en 2016. Un jugement monstrueux, selon l'inculpé, qui plaidait son innocence et avait fait appel. Président de la République des Serbes de Bosnie, il est accusé d'avoir organisé la campagne de nettoyage ethnique en Bosnie. Plus d'un million de non-serbes ont été expulsés de leurs maisons. Le conflit a fait au total 100 000 morts, dont deux tiers de bosniaques musulmans et un quart de serbes. Radovan Karadzic a notamment ordonné le massacre de 8000 hommes et adolescents musulmans à Srebrenica en juillet 1995, un acte de génocide pour la justice internationale. Après avoir quitté ses fonctions de président en 1996, Karadzic avait disparu dans la clandestinité. Il a été arrêté 12 ans plus tard à Belgrade. Il vivait sous un faux nom au cœur de la ville serbe. Psychiatre de formation, il s'était reconverti en spécialiste des médecines alternatives.
Oriane Verdier pour RFI. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que Daesh n'était qu'à quelques heures de la défaite en Syrie. Lors d'une visite dans une usine de l'Ohio, le président Trump a présenté deux cartes indiquant la réduction spectaculaire de la présence du groupe en Syrie depuis son élection. Donald Trump affirme que Daesh n'a plus de territoire en Syrie. Il confirme aussi que 400 soldats américains resteront en Syrie pour le maintien d'une zone de sécurité dans le nord-est du pays. Le secrétaire d'État américain poursuit sa tournée au Proche-Orient. Mike Pompeo est à Jérusalem pour des entretiens. Hier, il a rencontré dès son arrivée le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Reportage Guillaume Delteille, RFI.
Aux yeux des États-Unis et d'Israël, l'Iran est et demeure la principale menace au Proche-Orient. Et Benjamin Netanyahou promet de poursuivre ses actions contre la République islamique.
Repousser l'Iran est dans l'intérêt de la paix, de la sécurité et de la stabilité pour Israël, pour nos voisins et pour le monde. Je veux profiter de cette occasion pour dire que nous continuerons d'agir autant qu'il sera nécessaire contre les tentatives de l'Iran de s'implanter militairement avec des armes dangereuses en Syrie.
Des opérations approuvées par les États-Unis, Mike Pompeo a rappelé que Téhéran menace Israël de destruction et souligné l'engagement de son pays aux côtés du gouvernement israélien.
Avec de telles menaces qui constituent une réalité quotidienne de la vie israélienne, nous maintenons notre engagement sans commune mesure en faveur de la sécurité d'Israël et nous défendons fermement votre droit à vous défendre. Selon l'accord que nous avons signé en 2016, nous fournissons à Israël 3,8 milliards de dollars par an comme aide à sa sécurité.
Aucune annonce majeure au cours de cette rencontre, mais l'affichage de l'amitié entre les deux pays est un atout pour Benjamin Netanyahou en pleine campagne électorale, une carte qu'il jouera à nouveau la semaine prochaine lorsqu'il sera reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump.
Guillaume Delteil pour RFI. En France, 4 associations accusées de prêcher le djihad vont être dissoutes. Explication de Alexis Bédu pour RFI.
Toutes ces associations étaient regroupées au sein du centre Zara à Grande-Synthe dans le nord de la France. Ces locaux avaient été visés par une opération antiterroriste en octobre dernier. Des armes à feu détenues illégalement y avaient été découvertes. À la suite de ces perquisitions, le trésorier de l'association avait été condamné à 6 mois de prison ferme. Les associations visées par ces demandes de dissolution s'appellent Fédération chiite de France, France Marianne Télé ou encore Parti antisioniste. À l'origine de celle-ci, on trouve Yahya Gwasmi, un des fondateurs du centre Zara en 2005. Il était surveillé de près et semble faire de l'antisionisme sa matrice intellectuelle. Selon lui, l'opération policière menée en octobre dernier était, je cite, une machination d'Israël. Il multipliait également les vidéos anti-israéliennes sur sa chaîne YouTube, évoquant toutes sortes de soi-disant complots contre l'islam, soutenant ouvertement le Hamas et le Hezbollah. Ce sont ces agissements qui ont convaincu le ministère de l'Intérieur de dissoudre ces associations.
En France, toujours les militaires de l'opération Sentinelle seront présents samedi prochain pour l'acte 19 des Gilets jaunes après les violences de samedi dernier. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, sur RFI.
Des moyens spécifiques seront donc déployés dès le week-end prochain, des brigades anticasseurs dédiées, l'usage de drones, l'usage de produits avec des marquages indélébiles, une zone de filtrage en amont et, le président de la République l'a indiqué ce matin, la mobilisation renforcée du dispositif Sentinelle pour sécuriser les points fixes et statiques conformément à la mission du dispositif Sentinelle. Nous ne pouvons pas laisser une infime minorité violente abîmer notre pays et détériorer l'image de la France à l'étranger. Les prochains jours seront donc décisifs.
Voilà le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux. Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie, Perth maximal de 32 degrés, Adélaïde 30, Melbourne 25, Hobart 20, Canberra 27, Sydney 26, Brisbane 31, Cairns 28, Darwin 35 et à Alice Springs maximal de 39 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi, l'état d'urgence dans le territoire du Nord avec le passage du cyclone Trevor. La première ministre britannique demande aux députés de soutenir un accord du Brexit. En France, 4 associations accusées de prêcher le djihad vont être dissoutes. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.